Il est l'heure de la revue de presse française, comme chaque matin, et à la une. Ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs.
Il y a un changement historique dans la grande distribution, ma chère Julie, ça va vous intéresser.
Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro. Mais là, pas de lapin, non, c'est de poulet dont il est question.
Today's story, Neil, is about a food that a lot of people around the world eat for breakfast.
It's business.
La revue de presse du business de la bouffe.
Avec Olivier Frey.
Et Daniel Coutinho.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec l'expert du secteur agroalimentaire, Olivier Frey. Bonjour Olivier.
Salut Daniel, bonjour à tous.
Alors Olivier, aujourd'hui nous sommes en samedi matin, 8h30, elle n'est pas drôle la vie, hein?
Non, c'est vrai. En plus, il faisait un peu froid ce matin, mais au moins, on a eu un beau lever de soleil.
C'est clair. Bon, Olivier, aujourd'hui, nous avons un épisode très business avec beaucoup de sujets autour des fusions et acquisitions dans la bouffe. Mais pas que. On va parler aussi du blé noir chinois, de la framboise française, des industriels qui s'approprient du véganisme, les cantines connectées et même d'un groupon chinois dans la bouffe. Mais commençons par un sujet qui a mis les feux dans les mondes de la grande distribution cette semaine avec un article qui vient directement du Canada. C'est dans la publication La Presse, Couche-Tard en discussion pour acquérir la chaîne française Carrefour. Peut-être Olivier, commençons par les débuts en fait. C'est qui Couche-Tard ?
Alors Couche-Tard en fait c'est une chaîne de, on pourrait dire de supérettes, là-bas ils appellent ça des dépanneurs, hein. Donc c'est quand même des petits magasins qui sont souvent accolés à des stations-service. C'est d'ailleurs l'expert de la distribution Olivier Dauvert qui le faisait remarquer sur Twitter. Couche-Tard, c'est 72% du chiffre d'affaires qui est réalisé dans le pétrole.
72.
Ouais. D'accord. Donc la partie alimentaire est quand même un peu réduite, hein.
Ah, parce qu'en fait, il vend, évidemment, il a les boutiques Couche-Tard, mais en fait, il vend l'essence, en fait. C'est ça son business.
Voilà, c'est comme quand vous allez dans les stations-service chez nous, on a souvent des épiceries qui vendent des petits produits de dépannage. Et donc, c'est une chaîne qui a à peu près 14 000 supérettes à travers le monde, dont plus de 9 000 en Amérique du Nord.
Mais c'est ça qui explique plein de choses. Alors, ça explique déjà la rentabilité plus intéressante des Couche-Tard par rapport à Carrefour.
Et ouais, en soi, le chiffre d'affaires de Couche-Tard, c'est inférieur à celui de Carrefour, hein. Couche-Tard, c'est à peu près 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
D'accord.
Et Carrefour, c'est 80 milliards, grosso modo.
Donc, ça fait un peu la moitié de la taille des Carrefour.
Mais par contre, Couche-Tard est plus rentable.
Oui. Ce qui justifie donc une valorisation beaucoup plus élevée en bourse, en fait.
Oui, en fait, c'est en bourse, Couche-Tard est plus important, hein. Donc, du coup, c'est la valorisation de Couche-Tard qui était plus importante, qui lui permettait de faire cette offre-là.
Cette opération.
Bon, ce qui s'est passé entre-temps, entre le moment...
Déjà, certains ministres qui se sont fortement opposés.
Il y a Bruno Le Maire qui s'est manifesté et qui a dit que l'État français serait contre cette opération-là en mettant en avant la sécurité alimentaire
de la France. Ce qui est intéressant, moi je ne connaissais pas ces chiffres, en fait la grande distribution pèse 200 milliards d'euros en France, c'est l'équivalent des 10% du PIB français.
Ouais.
C'est un énorme,
ouais, c'est énorme.
Un énorme secteur, quoi. Et Carrefour aussi, c'est les premiers employeurs en France, un premier employeur privé en France avec 360 000 salariés.
Tout à fait. Alors du coup, effectivement, se poser forcément la question de savoir est-ce qu'on pouvait faire passer sous pavillon étranger un groupe français qui pèse autant d'emplois, parce que la ministre du Travail est aussi montée au créneau.
Elle aussi, oui.
Et en fait, on vient d'apprendre juste avant d'enregistrer.
Ah, ça, c'est l'avantage d'enregistrer un samedi.
que Couche-Tard avait renoncé finalement à faire
au rachat. Donc voilà. Carrefour reste français, on peut se.
Carrefour reste français, mais par contre, ça reste quand même une cible potentielle parce que son cours de bourse n'a pas forcément beaucoup évolué. Et,
tout à fait.
Et finalement, sa capitalisation boursière reste assez faible. Hein.
On est d'accord, ça reste une cible intéressante parce qu'elle est sous-valorisée en fait.
Ouais, voilà, c'est à peu près une capitalisation boursière à 13 milliards de dollars à peu près, grosso modo, 13 milliards d'euros. Mmh. Ça reste quand même une cible potentielle pour de nombreux
acteurs.
C'est
clair que c'est les ratios chiffre d'affaires valorisation en bourse, il est assez faible là, il est de 20% presque, un peu moins même. Bah, continuons sur le domaine de la fusion-acquisition, je pense que c'est un peu la thématique du jour dans cette revue de presse. C'est une nouvelle qu'on avait déjà appris en fin d'année, mais là elle se développe en fait, c'est sur Les Échos. Quelle sera la première cible du trio Zuari-Niel-Pigas? Bon, Xavier Niel, Mathieu Mathieu Pigas, je pense qu'ils sont peut-être un peu plus connus du grand public parce que ce sont deux entrepreneurs qui sont visibles depuis un moment. Zouahi, la famille Zouahi, qui est multi-franchisée casino et principal actionnaire des Picards, monte en notoriété ces dernières années. C'est une famille qui est assez discrète finalement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la famille Zouahi?
Tout à fait. Ils ont aussi repris Picard. Hein, donc,
aujourd'hui, c'est l'actionnaire des références.
Voilà. Ils avaient au départ plusieurs magasins en franchise casino. Mm-hmm. Et petit à petit, ils ont effectivement monté un empire dans la distribution. Hein.
Et du coup, c'est quoi cette association? En fait, ils ont démarré par une levée de fonds avec une entité spéciale. Est-ce que tu peux nous expliquer?
Alors, c'est effectivement une société un peu coquille vide. Hein. Ça s'appelle un SPAC, pour Special Purpose Acquisition Company. Mm-hmm. Donc, c'est un modèle qui a commencé à faire son apparition il y a quelques mois. Hein. Il y a le PDG de Virgin qu'on avait monté un aussi. Donc, c'est effectivement une espèce d'entreprise coquille vide qui est faite pour lever des fonds, pour investir après
en
derrière.
En bourse, parce que c'est en bourse, c'est ça qui est...
C'est une levée de fonds en bourse. Ouais, ils ont levé...
Et je pense que tu arrives à faire ça quand tu as les CV de Zouahi Niel Pigas. Je pense que c'est toi et moi qui essaie de monter une SPAC dans la bouffe. On aurait peut-être un peu plus de mal à lever 300 millions d'euros quand même.
Bon, on ne sait jamais, peut-être dans 2-3 ans, on y
peut-être,
arrivera.
Peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces capitales-là, ils peuvent, et avec des effets des leviers financiers, avec de l'emprunt bancaire, mais aussi d'autres effets des leviers financiers, ils peuvent cibler des sociétés qui ont un prix entre 1,5 milliard à 2 milliards d'euros. Donc, c'est des cibles quand même assez intéressantes. Quoi.
C'est des cibles intéressantes et pour les échos, il y a plusieurs cibles visées. Hein. Il y a deux choses que la cible cochera, finalement, deux cases. Mm-hmm. C'est l'alimentaire et le durable.
D'accord.
C'est ce qui a été annoncé.
Ah, c'est un peu leur cahier de charge, en fait,
voilà,
leur thèse d'investissement.
Grosso modo.
Ouais.
Donc, du coup, les échos s'est amusé à regarder qui pouvait être la cible potentielle. Donc, première cible, ce serait le groupe Casino.
Énorme.
Le groupe Casino, hein, on rappelle, c'est...
Qui est aussi sous-valorisé en bourse, parce qu'elle est valorisée à quoi?
3 milliards.
Ouais.
3 milliards à peu près, ce qui est assez peu hein, pour un groupe qui a quand même Naturalia, Monoprix, Franprix. Donc, c'est quand même une cible potentielle pour ce SPAC, qui s'appelle 2MX, hein, on le rappelle. Ouais. Autre cible potentielle, ce serait un spécialiste du bio.
Mmh.
Hein. Les spécialistes du bio sont un peu en difficulté, hein, on l'a vu. Il hein. y a Bio C'est Bon qui avait fait un dépôt de bilan qui finalement a été repris par Carrefour. Il y a Biocop qui n'est pas forcément en très bonne posture non plus. La Vie Claire également. Donc, la Vie Claire pourrait être éventuellement une cible.
Biocop, je ne crois pas, mais la Vie Claire, pourquoi pas.
Et enfin, une cible que quelques experts ont mis en avant, c'est Grand Frais.
Mmh.
Hein, Grand Frais, je pense que...
Bah, tu rappelles Grand Frais, parce que il est, pour nos auditeurs en région, je pense que c'est plutôt connu, mais à Paris, c'est quand même un peu moins connu.
C'est vrai qu'à Paris, on en a peu. Grand Frais, c'est un spécialiste quand même des fruits et légumes frais, qui propose aussi un rayon boucherie, un rayon fromage.
Qui a un concept que, franchement, je trouve génial, en fait.
Ça fait
penser un peu aux Halles. Dans
voilà, c'est un peu ça.
Ouais.
Et ils sont souvent accolés, d'ailleurs, à des hypermarché, hein, les grands frais, vous les trouvez dans les zones commerciales et industrielles aux alentours. Et donc, c'est un modèle qui a très bien fonctionné, qui fonctionne toujours très bien.
Mmh.
Et selon les échos et quelques experts, comme Grand Frais appartient en partie à un fonds d'investissement...
Mmh. Qui est rentré dans les capitales récemment, en plus.
Voilà. Et les échos pensent que ça pourrait être éventuellement une cible.
On voit aussi dans l'article, il parle de l'intérêt par peut-être un industriel, par un producteur, quelqu'un qui... Voilà, ça pourrait être aussi une cible, même si l'expertise, on va dire, des Zouahi, c'est plutôt dans la distribution, quoi.
Oui, tout à fait.
Bah, à suivre, parce que c'est sûr que cette année, on aura forcément un article sur It's Business qui parlera d'une première acquisition. Et là, on va finir un peu cette rubrique fusion-acquisition d'aujourd'hui avec un nouveau rapprochement. Là, c'est un rapprochement dans les business de l'agriculture que tu connais très, très, très bien. C'est InVivo qui se rapproche de Soufflé. Alors là, il va falloir peut-être expliquer un petit peu plus en détail qui sont ces deux acteurs.
Oui, alors c'est un peu un coup de tonnerre, hein, mine de rien, dans le monde agricole et agroalimentaire, hein, parce que c'est Invivo, c'est historiquement une grosse coopérative agricole, une union de coopératives agricoles, même pour être précis. C'est 192 coopératives agricoles qui sont adhérentes de l'union Invivo.
Énorme.
Qui a des racines qui remontent à 1945.
Donc, après-guerre, quoi.
Donc, c'est Invivo est né en 2001, mais des racines qui remontent en 1945. Aujourd'hui, c'est un groupe qui pèse plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est présent dans l'agriculture, donc dans le commerce de céréales, dans les semences, dans les produits phytosanitaires.
Même dans les vins aussi.
Ouais, ils sont également dans le vin. Hein. Ils ont une branche qui s'appelle Invivo Wine qui pèse quasiment un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Et c'est également un poids lourd de la jardinerie parce que Invivo est propriétaire de Jardiland. Ils ont les gammes verts et ils ont aussi Delbar.
C'est assez divers, un business assez varié, quoi.
C'est assez varié comme business. Et du coup, ils ont fait une offre sur un autre acteur qui n'est pas très connu non plus du grand public, je pense, qui s'appelle Soufflet. Donc Soufflet, c'est un groupe familial qui est spécialiste à la base dans tout ce qui est négoce de céréales, donc à la fois vente de céréales, exportation de céréales, collecte de céréales, mais également transformation de céréales. Hein. Je pense par exemple à la meunerie.
Bah, d'accord.
Hein, ils font de la farine.
Ils font du malt aussi.
Ils sont aussi très présents dans le malt. Ils font partie des trois plus gros producteurs de malt au monde. D'ailleurs, les trois sont français, hein, je le rappelle. On a Soufflet, on a Axéréal, qui est aussi un groupe coopératif, et on a Vivestia, qui est un autre groupe coopératif.
Donc la France est le pays leader dans les maltes, quoi.
Voilà, leader dans le malt, et qu'est-ce qu'on fait avec le malt ? Eh bien, on fait de la bière.
Oui.
Et donc, du coup, quand vous êtes leader dans les leaders mondiaux du malt, vous bossez avec tous les grands brasseurs, Heineken, AB InBev, etc.
Super. Et donc, du coup, cette nouvelle société, si jamais la fusion, elle se fait, elle pèsera ainsi 10 milliards d'euros des chiffres d'affaires. Ça fait un mastodonte dans le monde agricole, en fait.
Ça deviendra un très gros acteur, effectivement, du monde agricole. Et là où on pourrait se féliciter, c'est que en fait, on a quand même une entreprise française qui rachèterait une autre entreprise française. Donc,
ça reste en France, quoi.
Ça reste en France.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, parlons d'un autre sujet qui va aussi faire, je pense qu'il va revenir assez souvent sur It's Business, qui est les véganismes. Et là, un article sur Les Échos où les végans, la nouvelle folie des industriels. Alors, les industriels, je suppose, essayent aussi de s'approprier de cette tendance des consommations qui est assez forte.
Bah forcément. Et moi, j'ai découvert dans cet article, par contre, que le mouvement vegan, il a été lancé en 1944 en Grande-Bretagne.
Ouais.
Hein, et aujourd'hui, finalement, c'est une vraie tendance de consommation, hein, parce que les prévisions de la banque Barclays estiment que les ventes mondiales de produits à base de protéines végétales, par exemple, ils vont augmenter de 16% par an et que c'est un marché qui pèsera près de 30 milliards d'euros en 2027.
Énorme.
Donc forcément,
ça attire du monde
et il y a un peu tous les gros industriels de l'agroalimentaire qui se lancent ou qui ont annoncé qu'ils allaient se lancer dessus. Hein. Le dernier en date, c'est Unilever qui a racheté Vegetarian Butcher, dont on avait déjà parlé dans la newsletter, et qui vise 1 milliard d'euros de revenus d'ici 5 ans grâce à cette nouvelle.
Butcher, c'est les substituts des protéines animales, en fait. Voilà. C'est les fake burgers, quoi.
Voilà. Et on a aussi des startups de ce secteur-là, hein, qui ont levé de plus en plus de fonds. Hein.
Bah, on voit Impossible Foods, Beyond Meat, qui ont levé des centaines de millions de dollars, en fait.
Ouais, Beyond Meat est carrément rentré en bourse et aujourd'hui, il pèse quasiment 9 milliards de dollars. Hein. Ça fait à peu près la moitié de la capitalisation boursière de Carrefour, hein, donc pour vous rendre compte. Hein.
Énorme. Et même en France, on a un acteur qui émerge, qui a une croissance fulgurante cette dernière année, qui est Les Nouveaux Fermiers, qui a lancé son usine en France pour produire de la viande végétale et qui a un fort succès commercial. Donc, on voit ça reste un produit de niche, mais avec une demande qui est en croissance.
Ouais, et ce qu'il faut voir, c'est que finalement, tous ces produits-là ne visent pas que les véganes. Ils visent aussi ce qu'on appelle flexitarien, finalement.
Bien sûr.
Parce que le véganisme, aujourd'hui, reste encore quand même une niche, hein,
oui.
On va se leurrer. Mais par contre, les gens qui ne sont pas strictement végétariens ou véganes, cherche aussi à manger plus de protéines végétales.
C'est ce qu'il m'a dit un pote récemment, c'est que je suis vegan à temps partiel.
Voilà, c'est ça.
mais moi, je voulais juste souligner un point parce que c'est l'article, il finit sur cette ligne-là et moi, je suis assez d'accord. C'est certes que c'est une tendance de consommation qui prend en compte les bien-être animal. Après, il faut juste pas penser que parce qu'un produit, il est vegan, il est sain, en fait. Parce que souvent, ces produits vegans, ils sont ultra transformés, on a déjà évoqué ça. Et l'article finit avec un commentaire de Mark Bittman, qui est chroniqueur culinaire au New York Times, qui dit « Ces produits sont plus proches de la chips que de la salade, attention
!» C'est vrai.
Bon, parlant d'un autre sujet qui m'a surpris, et je pense qu'il va surprendre beaucoup d'auditeurs, on va parler, c'était sur West France, les galettes bretonnes. Pourquoi vous mangez souvent chinois sans le savoir? En fait, on apprend dans cet article que les galettes bretonnes ne sont pas si bretonnes que ça, finalement.
Eh oui, en fait, la Bretagne, historiquement, c'est un gros producteur de blé noir, hein, le blé noir qu'on appelle aussi sarrasin, hein, et qui est quand même la matière principale des galettes bretonnes. Et jusqu'à il y a quelques années, c'était un gros producteur, mais depuis quelques années, la Bretagne est contrainte d'importer du blé noir. Hein. 70% provient de Chine et dans une moindre mesure de Pologne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, la région, en Bretagne, on possède une IGP qui s'appelle Blé Noir Breton, avec 1700 producteurs. Il y a quand même une production de qualité en Bretagne. Et par contre, en 2020, c'était à peu près 2400 tonnes de farine de sarrasin sous IGP et 300 à 400 tonnes de farine qui n'était pas IGP et produite en Bretagne. Et du coup, cette production-là, ça couvre à peine 20 à 25% des besoins de la région.
Ça veut dire que 80% du blé noir utilisé en Bretagne, il ne vient pas de la Bretagne, en fait.
Voilà.
Ça, c'est incroyable, mais ça s'explique par rapport au prix, parce qu'on apprend qu'en fait, les prix du blé noir bio, je pense que la tonne, elle est négociée à 1000 euros, et les produits non bio qu'on peut acheter en Chine ou en Pologne, les prix à 250-400 euros.
Ouais. C'est ce problème de ça, c'est est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il faut avoir plus de galettes avec des blés provenant de Bretagne ou...
Ouais, bah la deuxième question qui tu évoques aussi dans ta synthèse et dans l'article, c'est que la législation, il y a un flou dans la réglementation française qui n'oblige pas à donner l'origine du produit. Donc
ouais,
en fait,
voilà.
Les consommateurs, il n'est pas au courant s'il consomme du blé noir chinois ou breton.
Voilà, et du coup, il suffit de mettre un petit drapeau breton ou une bigoudaine pour faire passer son produit pour un produit breton. Quoi.
Et je suis convaincu que si c'était une obligation de communiquer sur l'origine du blé, bah forcément, la consommation elle allait évoluer vers des produits français, on l'espère au moins.
Voilà.
Mais ça, c'est un vrai sujet et c'est très intéressant de prendre en compte finalement qu'il faut faire vraiment attention avec ces galettes. Prochain article, c'est encore une fois sur West France et encore une fois sur un produit français. La framboise française inquiète d'Henri Bon. Bah, dans l'article, on parle d'un fruit qui est très apprécié des Français, hein, la framboise, mais il se trouve aussi qu'elle est de moins en moins française.
Ouais, alors c'est pareil, on a un autre paradoxe, c'est que finalement la consommation de framboises, elle augmente en France. Hein. On estime qu'entre 2015 et 2019, les achats de framboises, ils ont augmenté de 9% en volume. Et par contre, il y a seulement 13% des framboises commercialisées en France qui étaient d'origine France en 2019.
Énorme, ouais.
Et 10 ans plus tôt, c'était 31%. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans le même temps, la production française, elle a été divisée par deux. En
donc,
15,
la consommation,
15, 20 ans.
Elle a augmenté, la production, elle a baissé. Et en fait, c'est les pays comme l'Espagne, le Portugal et le Maroc qui fournissent aujourd'hui la majorité de nos framboises.
Voilà.
Ça s'explique, en fait, parce que, évidemment, comme c'est un produit très fragile, la cueillette, elle est très complexe et les coûts des main-d'œuvre représentent aujourd'hui 70% du coût de la framboise.
Ouais.
Donc forcément, ça coûte moins cher au Portugal, au Maroc et en Espagne. Quoi.
Et on se retrouve face à des problématiques qu'on a vues dans d'autres filières. Hein, où finalement, on a des produits qu'on importe de nos voisins européens parce qu'ils sont moins chers, parce que la main-d'œuvre dans ces pays-là coûte moins cher. Donc c'est encore le manque d'homogénéité au niveau du coût du travail en Europe qui est aussi...
Créer des écarts-là, ouais,
voilà.
Tout à fait. On voit ça partout d'ailleurs. Prochain article, on va parler d'un sujet qui est très 2020 en fait avec les confinements. C'est sur ZDNet, faire entrer la cantine connectée sur son lieu de travail, une tendance des démons ou même d'aujourd'hui. Olivier, on parle de la food tech dans cet article avec un focus spécial sur la société Pop Chef.
Oui, alors la question c'est est-ce que la cafétéria traditionnelle, elle va être remplacée en fait par des frigos connectés qui seront disposés dans des espaces communs dans les entreprises. Mmh. Et on ZDNet a interrogé pour ça une société, une start-up qui s'appelle Pop Chef. Pop Chef, c'était à la base une entreprise qui s'est lancée dans la livraison de repas sur Paris.
Un peu à la Frischti, on va dire.
Voilà. Le problème, c'est que c'est un marché qui est quand même très bataillé. Donc, Pop Chef a un peu pivoté son modèle. Et fin 2017, ils ont décidé de s'orienter plus vers la restauration collective en entreprise.
Du B2C plutôt vers les B2B.
Voilà. Et du coup, ils ont revu leur offre et ils l'ont centré plus sur un modèle un peu de cantine digitale. Hein, ils appellent ça comme ça. Et ils s'adressent plutôt aux PME, pas aux grands groupes, hein, parce que forcément, les cantines, les cafétérias dans les grands groupes, c'est souvent les grands Sodexo, etc., qui les gèrent. Mmh. Et l'idée, c'est que finalement, chaque matin, Pop Chef va remplir le frigo avec les plats du jour. Hein, et les gens ont une appli sur leur smartphone.
Ils peuvent passer commande, voilà. Réserver leur plat. Et...
Ils ont même, pendant le confinement, ils ont développé une offre de livraison. C'est-à-dire que les gens qui étaient en télétravail chez eux pouvaient se faire livrer les mêmes repas que
Il y a le CEO de Pop Chef qui dit qu'ils ont effectivement fait ça, mais qu'ils ne croient pas du tout au modèle. Et je suis assez d'accord parce qu'en fait, ça revient au B2C et les coûts logistiques, il est très élevé.
Voilà.
Et après, ce qui est intéressant, ce que j'ai appris, c'est qu'un frigo connecté coûte 3000 balles quand même. Ouais. Donc, je pense que c'est un coût fixe pour démarrer évidemment l'offre. C'est les coûts de côté Pop Chef aussi d'installer ces hardware pour pouvoir y stocker ces produits. Et ça reste un marché qui est moins... il est très concurrentiel, mais en fait, on a beaucoup d'acteurs historiques qui n'ont pas su se transformer digitalement et qui peut-être ont une offre qui est peut-être moins dans l'air du temps. Et c'est une opportunité pour des boîtes comme Pop Chef, mais aussi il y a Frischti avec sa cantine 2.0, Foodchéri, Nestor, même Uber et Deliveroo, on apprend qu'ils ont des offres B2B en fait.
Et après, il y a aussi des acteurs un peu de la distribution qui se lancent là-dessus, plus en mode distributeur automatique. Hein. Je pense à Picard qui lance aussi une offre.
Ah ouais
il y a des offres qui se lancent. Et effectivement, le confinement et le développement du télétravail, il y a beaucoup d'experts qui pensent effectivement que le télétravail restera la norme, peut-être pas 5 jours par semaine.
Oui, mais 2-3 jours par semaine.
Et le fait que les gens télétravaillent, ça a énormément d'implications dans beaucoup de centres-villes.
On aura besoin des bureaux moins grands et pas forcément des cantines, quoi.
Voilà.
On va parler maintenant d'un acteur qui s'adresse aussi à ces secteurs-là, mais pas que, qui a une activité traiteur, retail et même école, formation. C'est sur les échos qui parlent justement des recettes de Le Nôtre pour traverser la crise sanitaire. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cet article ?
Alors, Le Nôtre, comme tous les traiteurs, hein, son activité traiteur a plongé. C'est moins 77% en 2020. Par contre, il a réussi à limiter la casse parce que Le Nôtre, c'est pas que un traiteur, c'est pas qu'une activité traiteur. Il y a aussi des boutiques. Mmh. Hein, il y a 11 boutiques en France. Il y en a 7 en franchise au Japon, en Chine, en Arabie Saoudite.
C'est une marque forte, Le Nôtre.
Et c'est aussi une école de cuisine.
Tout à fait.
Et donc, Le Nôtre, finalement, a réussi à limiter la casse grâce à ces boutiques qui ont résisté. Hein. Les boutiques, c'est seulement 8% de chiffre d'affaires en moins sur 2020.
Bien
et
joué.
Du coup, ça a permis de limiter la casse. Et ce qui a aussi sauvé un peu le groupe, c'est le développement du e-commerce.
Oui.
Parce que finalement, c'est comme toutes les boîtes.
Comme beaucoup d'acteurs. Tout à fait.
En fait, on a fait un leapfrog, comme on appelle ça. On a fait un bond de 3 à 4 ans. Hein. Tout le monde s'accorde à dire que l'utilisation du e-commerce...
C'est accéléré, quoi.
C'est accéléré grâce au Covid.
Oui, ça a permis à Le Nôtre de s'en réinventer par la suite. Et peut-être ils vont être un peu moins dépendants de l'activité traiteur. Moi, ce qui m'a attiré l'attention aussi, c'est qu'ils disent avoir fait un très bon mois de décembre. Nous, on a observé ça aussi, notamment avec un client de Debouffe qui est dans l'activité pâtisserie-boulangerie, qui a fait les meilleurs Noëls de son histoire. Oui. Parce qu'il y avait plus de gens, il y avait des groupes plus petits, plus de gens qui n'ont pas voyagé, donc une demande pour ces produits qui était plus importante. Et il faut rappeler aussi que les nôtres, ça appartient à Sodexo, qui l'a racheté en 2011. Donc oui. Les nôtres est aussi dans un groupe qui quand même pèse et qui a une activité qui est très importante, très impactée également par la crise.
Et du coup, le e-commerce est passé de 2% à 10% du chiffre d'affaires.
Super.
Et ils ont développé ça en passant des accords avec Deliveroo, Épicerie, mais aussi Pop Chef.
Un propre aussi, et Pop Chef où ils livrent leur plateau repas. Ouais,
voilà.
Tout à fait. Les derniers articles du jour, en fait, c'est un article qui vient des États-Unis. C'est Kingston News, c'est où
c'est en Chine.
C'est en Chine, d'accord. C'est un anglais, mais c'est en Chine. Donc, c'est un article qui vient directement de la Chine. Remember Groupon, a new version is making waves in China. Vous vous souvenez des Groupon? Une nouvelle version fait des vagues en Chine. On apprend qu'en fait, les Chinois achètent des produits alimentaires directs à producteurs en grande quantité. Comment ça fonctionne en fait?
Oui, alors il faut bien voir qu'aujourd'hui, en fait, quand on regarde ce qui se fait au niveau numérique, c'est souvent vers la Chine qu'il faut regarder. Hein. On a tendance à regarder les États-Unis de notre fenêtre, mais le vrai développement du e-commerce et du numérique se passe en Chine aujourd'hui.
C'est d'accord. Ouais.
Et pour se faire une idée, vraiment, c'est un phénomène qui est amplifié, mais ça tient aussi à la particularité du marché chinois. On a ce qu'on appelle des méta-applications de type WeChat où on peut tout faire à l'intérieur de la même appli sur son smartphone. Et en fait, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, en fait, parce que on a eu, comme partout, le développement du e-commerce alimentaire. Mmh. Parce qu'en Chine, il y a eu le confinement aussi. Ils ont commencé.
Bien sûr, ça a aussi accéléré.
Ça a accéléré. Mais il y a un côté, en plus, en Chine, qui s'est développé, c'est l'aspect communautaire.
Mmh.
Et en fait, dans les quartiers, les gens, maintenant, désignent un représentant du quartier. Qui va créer un groupe sur WeChat, par exemple.
WeChat, c'est l'équivalent de WhatsApp,
voilà.
mais avec beaucoup plus de fonctionnalités.
Voilà, et du coup, en fait, ça va centraliser les commandes du quartier.
Uh-huh.
Cette personne-là va ensuite aller va passer commande, récupérer la commande et ramener ça dans un local, et les gens du quartier viendront récupérer la commande.
Donc ça évite tous les coûts élevés du dernier kilomètre, en fait,
voilà.
Qui est un vrai casse-tête dans la logistique.
Et en fait, ça va passer par des plateformes intermédiaires qui s'appellent Didi Xuxin, Meituan et une autre qui s'appelle Pinduoduo.
D'accord.
C'est pas très connu chez nous, hein, mais,
oui,
c'est un acteur qui, à mon sens, faudrait regarder de près ce qu'ils font.
Mm-hmm.
Parce que je vais vous donner juste quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée. Hein.
Vas-y.
En 2019, c'est 600 000 commerçants qui ont vendu des produits agricoles par l'intermédiaire de Pinduoduo.
C'est qui est déjà énorme.
Donc ça fait travailler 12 millions d'agriculteurs.
Waouh.
Et en fait, en août dernier, Pinduoduo...
Un an plus tard.
A fait une annonce, ils ont annoncé qu'ils s'engageaient à vendre pour 145 milliards de dollars de produits agricoles par an d'ici 2025.
Milliards de dollars.
Ouais, c'est énorme.
C'est un truc de ouf, en fait. On vient d'évoquer que Carrefour pèse 80 milliards des chiffres d'affaires. Et là, on parle d'un acteur digital qui fait du direct producteur, qui fait 145, ou qui estime faire 145 milliards de dollars d'ici 2025.
Voilà, donc c'est une
ça
vraie
bouge en
tendance.
Chine.
C'est une vraie tendance en Chine. Et en Chine, vous avez aujourd'hui des agriculteurs qui font un peu des émissions de téléachat avec leur smartphone.
Ah, bah, tout l'intérêt, de toute façon.
Pour moi, il faut qu'on regarde un peu plus ces acteurs-là parce que. On ne sait jamais, peut-être que demain, ça arrivera chez nous.
Moi, je suis convaincu. Après, la France, c'est un marché complexe. Mais en Chine, je pense que quand ils prennent une direction, ça avance assez vite. Mais c'est clair que c'est une tendance des fonds. Et comme tu dis, aujourd'hui, c'est là où il faut regarder. Ce n'est pas les États-Unis, quoi. Bon, maintenant on arrive à une section bons plans, et là cette semaine tu nous as fait une sélection des bons plans télé, donc quelques documentaires, quelques émissions autour de la bouffe sur la télé. On va commencer par une émission sur France 2, l'alimentation, la victoire du camembert normand.
Oui, alors je vous ai mis quelques petits trucs à la télé, hein, parce que maintenant qu'on est tous confinés à 18h à la maison, il faut bien s'occuper. Donc, c'est en fait, France 2 a fait un petit reportage, parce que depuis le 1er janvier, on ne peut plus mentionner fabriquer en Normandie sur les camemberts. Hein, c'est une vieille guerre entre des industriels et les vrais artisans du camembert au lait cru. Donc, ils ont été rendre visite à une fromagerie qui fabrique le camembert de Normandie de manière traditionnelle. C'est un petit reportage, mais c'est assez intéressant toujours de regarder comment c'est fabriqué.
Il y a un deuxième reportage qui me donne très envie, là. Je vais peut-être les regarder ce soir. C'est l'émission Infrarouge sur les thèmes Une vraie boucherie. C'est sur France 2 également.
Voilà, c'est une émission qu'on peut voir en replay encore jusqu'au 11 mars. Hein.
D'accord.
Donc, c'est un documentaire qui est consacré à un métier qui est assez décrié, hein, parce qu'on a parlé du mouvement vegan, etc. Donc, c'est le métier de boucher hein, qui aujourd'hui est mis en avant, mais de manière négative. Et ce documentaire a essayé de remettre du positif dans ce métier-là. Donc, ils ont été suivre des bouchers. Donc, comment ces bouchers-là se réinventent aujourd'hui, à la fois avec le mouvement vegan qui les attaque, mais aussi les attaques sur le réchauffement climatique. Hein, la viande serait responsable d'une partie du réchauffement climatique, de la maltraitance animale. Donc finalement, ils vont suivre des hommes et des femmes qui vont raconter leurs histoires. Ils ont suivi des apprentis aussi en boucherie. Donc c'est un reportage vraiment au cœur de ce métier-là.
Bah, très intéressant. Et on finit avec une dernière émission sur France 24, la cuisine française aux origines de la gastronomie.
Voilà, donc là c'est un documentaire sur... qu'est-ce que la gastronomie, donc c'est ce gasternomos.
Ça, j'adorais apprendre ça en fait. Gasternomos, ça veut dire l'art de régler l'estomac.
Voilà, et c'est comment l'art de la diplomatie a le besoin de transmission de notre héritage. Et du coup, la gastronomie, ça va vraiment au-delà des simples recettes de cuisine. C'est vraiment une question de transfert de culture.
Ben voilà, vous avez pas mal de bons plans pour le couvre-feu là, de cette semaine. Ensuite, on va parler d'un autre bon plan, mais là, cette fois-ci, c'est un site à découvrir. Alors, c'est une belle initiative du ministère de l'Agriculture. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Le ministère de l'Agriculture vient en effet de lancer, en collaboration avec les chambres de l'agriculture, une plateforme qui s'appelle frais-et-local.fr. Et sur cette plateforme, vous pouvez trouver près de 8000 agriculteurs.
8000, ouais. Énorme.
Ouais.
Ouais, super, bah, ça.
Si on lance une plateforme, il faut que ce soit massif d'un coup.
Ah oui, mais tout de suite, c'était très massif là. Ça m'a fait penser, je t'avais dit, à l'initiative Le Marché Vert, qui a même levé de l'argent sur Mimosa, qui est une initiative assez similaire finalement, qui a donné de la visibilité à ces fermiers pour que les consommateurs puissent acheter directement.
Tout à fait. Donc du coup, sur frais local, il y a 8000 exploitants qui vous fourniront en produits fermiers. Donc vous pouvez aller faire un petit tour et vous pouvez très bien aussi aller sur le marché vert. Je pense que les deux sont probablement complémentaires.
Oui, tout à fait. Et on va terminer avec un petit passage drôle sur les réseaux sociaux. Je dois avouer que je me suis retrouvé là-dedans parce que ça m'est déjà arrivé. C'est un tweet qui m'a fait énormément marrer. Je te laisse raconter l'histoire, mais c'est quelqu'un qui raconte, il explique comment c'est difficile parfois d'être un étranger en France.
Oui, alors c'est Mégane Clément, c'est @MegClément sur Twitter qui a fait un tweet où elle raconte son histoire au supermarché où elle s'est retrouvée devant la balance pour peser ses fruits et légumes. Et elle était en étrangère, elle cherchait à peser ses aubergines. Et
Elle
ne trouvait pas l'option aubergine. Et en fait, on lui a expliqué que aubergine, il fallait trouver avec la recette dans laquelle on utilisait l'aubergine. Donc, il fallait sélectionner ratatouille.
Et là-dedans, on trouve de la courgette, l'aubergine.
Voilà. Et pareil, elle voulait peser son céleri. On lui a dit, ça, il faut aller dans pot-au-feu. Donc, amis distributeurs, pensez aussi à tous ces étrangers qui viennent chez vous et qui veulent peser leurs fruits et légumes. Simplement.
Écoute, ça m'est déjà arrivé. Je pense que c'est chez Carrefour qu'ils font ça. Il faut avoir un CAP cuisine, en fait, pour faire ses courses.
Oui. Ou alors avoir, vous avez votre appli Marmiton quand vous allez poser vos fruits et légumes.
Alors, c'est pour ça que l'e-commerce dans l'alimentaire, ça explose. C'est beaucoup plus simple. Écoute, Olivier, c'était un plaisir, comme d'habitude, de faire cette revue de presse avec toi. On se retrouve semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Avec plaisir. À la semaine prochaine.
Au revoir. Merci.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
Bonne semaine et à bientôt.